Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin, on va parler de voyage, de découverte de contrées lointaines, d'évasion, de passion et d'amour. On en a tous besoin en ce moment, n'est-ce pas? Et on va parler de tout ça à partir de l'œuvre d'Ugo Pratt, le grand maître italien de la bande dessinée, le créateur de Corto Maltese, disparu il y a tout juste un quart de siècle, en 1995. Son dernier livre, J'avais un rendez-vous, un ensemble de textes, d'aquarelles et de dessins qui racontent son dernier voyage dans le Pacifique en 1992, vient d'être réédité par Le Tripode. L'invité du réveil culturel, Frédéric Martin, est l'éditeur de ce beau livre indispensable pour tous les amateurs de Pratt. Et on aura aussi, depuis Lyon, un autre spécialiste d'Ugo Pratt, l'historien et essayiste Michel Pierre, qui lui vient de sortir chez Casterman, Aventureuse, consacrée aux femmes qui ont partagé les aventures de Corto Maltese, Bouche Dorée, Pandora, Anne de la Jungle. J'avais un rendez-vous, donc, réédité au Tripode, et l'ultime livre d'Ugo Pratt, le maestro de la bande dessinée, le créateur de Corto, y raconte son dernier voyage en 1992 dans le Pacifique. Dans le Pacifique, évidemment, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Pratt. Mais ce beau livre est plus qu'un carnet de voyage. Pratt évoque son enfance, les livres et les films qui l'ont nourri, les rencontres essentielles, les bonheurs éphémères et les blessures éternelles, le bonheur de la vie quand on a traversé les tempêtes du XXe siècle. C'est comme si Pratt écrivait son testament, avec des mots, mais aussi avec ses photos, des dessins et des aquarelles remarquables. Ce beau livre est un livre d'art. « Passer ma vie dans un monde imaginaire a été mon île au trésor », confia un jour Ugo Pratt. La bande dessinée lui permettait d'être tout à la fois dessinateur, mais aussi romancier, historien, ethnologue. Elle lui a permis de réaliser ce qu'on avait de mieux à faire durant le siècle dernier. Voyager, prendre le large. Le 25 mai 1990, il s'exprimait à la télévision dans l'émission Thalassa, le magazine de la mer. Il évoque son projet de reprendre la mer pour un ultime rendez-vous avec l'océan Pacifique.
J'ai fait des grands voyages par mer. Et quand j'étais jeune, j'ai travaillé à côté des bateaux. Des bateaux de, disons, paquet-boat ou des bateaux de charge, de cargo. J'ai même travaillé sur un cargo quand j'étais jeune. Et moi, je suis vénitien. Et alors, l'eau, c'est quelque chose qui va bien avec ma nécessité d'imagination. J'ai encore un rendez-vous dans le Pacifique. Je devais aller à la Samoa anglaise, pour trouver la tombe de Robert Louis Stevenson.
Bonjour Frédéric Martin.
Bonjour.
Aller jusqu'au bout du monde par gratitude envers Stevenson pour les magnifiques histoires dont il a tout au long de sa vie tourmenté, régalé ses lecteurs. C'est ce que déclarait quelques mois avant de voyager Ugo Pratt à Thalassa. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réalisé les objectifs de cet ultime voyage? Est-ce qu'il savait d'ailleurs que c'était son dernier voyage?
En 90, je pense qu'il se savait déjà un peu fatigué et peut-être pas malade, mais c'est arrivé tout très vite après, en tout cas, oui. Quant à savoir s'il a réussi, vous le mettez au pluriel, donc c'est plus facile d'y répondre, les objectifs. Alors très concrètement, il y en a un qu'il n'a pas pu parfaitement réaliser, c'est-à-dire d'aller sur la tombe, parce que en fait la tombe est dans un lieu très escarpé et un ouragan quelques jours plus tôt avait rendu le chemin impraticable, donc il n'a pu que la survoler en hélicoptère. Après, tous les autres objectifs, et il y en avait beaucoup, je pense, donc il a fait ce voyage en 92 et là il se savait déjà malade. Il a fait de ce voyage à la fois un recueillement et du livre qui a suivi une sorte de testament.
Frédéric Martin, vous avez sans doute lu ce livre quand vous étiez adolescent, J'avais un rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le rééditer?
C'est plus qu'un livre pour moi, c'est presque un talisman. Je pense que depuis 10 ans, je dirige une maison d'édition et je crois qu'elle prend ses racines dans ce livre, en fait, tout simplement. Donc c'est une situation très étrange parce que vous lisez un texte quand vous êtes encore un peu gamin. Moi, j'avais une 20aine d'années. Et à peu près 20 ans plus tard, vous retrouvez à lui donner une autre vie, comme un retour. Là aussi, il y a presque une sorte de pèlerinage pour moi. Et ce livre a été très important, effectivement.
Mais pourquoi il a été important pour vous, Frédéric Martin ?
D'abord, c'est un livre magnifique, parce que, comme vous le disiez, c'est pas simplement un carnet de voyage, c'est un imaginaire qui se déploie, c'est toute une vie qui se représente à vous, puisque, d'ailleurs, de manière assez amusante, le début du livre vous annonce le Pacifique dans la première phrase, et deux paragraphes plus loin, vous êtes dans une dans l'arrière-cuisine d'un appartement de Venise, ouais, avec des vignettes Liebig qu'il collectionnait parce que ça lui permettait de rentrer dans son imaginaire. Donc c'est un livre très ample. Moi, je dirais principalement, ce livre, il m'a appris deux choses. C'est le rapport à l'image et aux mots, parce que c'est un texte qui circule beaucoup entre les deux, qui explique beaucoup justement ce que sont les images et ce que peut être la littérature.
Et quand vous dites images, c'est dessin, aquarelle et photo.
Pratt, il est né en 1927. Moi, c'est quelque chose que j'avais compris avec un autre auteur italien que je publie, qui est Goliarda Sapienza. C'est en fait la génération qui voit l'avènement de l'image. La généralisation du cinéma, les deux d'ailleurs, dans leur Pratt dans ce livre et Sapienza dans ses carnets, parle d'une revue de bande dessinée qui s'appelait L'Aventure Rose, qui a été l'équivalent, on va dire, d'un Picsou magazine de l'époque. C'est des gens qui voient naître la bande dessinée, qui voient naître le cinéma, qui voient l'accélération de leur époque aussi, et qui vont jouer avec. Et dans cette accélération-là, il y a aussi une accélération très nette dans le rapport à la langue, ne serait-ce par la diffusion des médias, en réfléchissant encore au rapport de Pratt au langage. Je repensais à ce livre de Klemperer, vous savez, sur la langue du Troisième Reich, et la manière dont les nazis avaient pu contaminer les imaginaires par les mots. Vous avez des personnes comme Sapienza, comme Pratt, qui vont avoir une sorte de défiance par rapport au langage, ou en tout cas aux doctrines et aux idéologies, et qui vont créer des univers, sinon parallèles, mais en tout cas très forts, qui sont à la fois ancrés dans l'image. Sapienza a été actrice aussi de cinéma et de théâtre, et dans l'écriture. On a souvent dit de Pratt qu'il avait été l'inventeur de la littérature dessinée, mais je pense que c'est plus que ça, c'est pas juste une transposition des vertus de la littérature en images, c'est qu'il a créé dans les écarts, les blancs qu'il constitue entre le dessin et les mots qu'il utilise, des outils très puissants pour répondre à notre époque. Pratt, la reconnaissance, elle est venue quand même 50 ans après, que dans le milieu des années 70. Il faut pas oublier que Hugo Pratt, par exemple, à un moment, Corto Maltese, que toujours et tout le monde vénère aujourd'hui, a commencé à être publié dans Pif Gadget, un magazine pour enfants, avec énormément de critiques. Il avait pas de place. Et dans les années 70, subitement, c'est à la fois une sorte de reconnaissance, voire de consécration. Et c'est ma génération, en fait. Moi, je suis né en 75. Et c'est la génération, je pense, qui a intégré l'apport de cette génération-là, qui a fait grandir le rapport à l'image et au texte.
La littérature est très présente dans la culture d'Hugo Pratt. Ça, on se rend bien compte en lisant « J'avais un rendez-vous ». Puisqu'à certains moments, il dit qu'il veut aller au bout du monde rien que pour retrouver dans la réalité une atmosphère fantasmée identique à celle décrite dans une nouvelle de Somerset Maugham. Il y a bien sûr son rapport à Stevenson. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus touché, Frédéric Martin, vous qui êtes tout à la fois éditeur, amoureux des livres, mais aussi voyageur? Vous avez beaucoup voyagé, j'ai vu que vous avez eu une enfance à Tahiti, vous êtes marseillais, même si vous vivez aujourd'hui à Paris, donc vous avez vécu dans une ville portuaire. Est-ce qu'il y avait aussi ces affinités entre l'évasion, les voyages et la littérature?
Maintenant, je vis en Bretagne, donc j'ai retrouvé les bords de mer, et j'ai également vécu au Maroc et aux Pays-Bas, donc oui, il y a une sympathie immédiate pour l'univers de Pratt et son côté vagabond. Mais encore une fois, pour revenir à l'importance de cet homme et de son œuvre, je pense qu'elle est plus dans ce rapport à l'imaginaire. Vous l'avez évoqué, la notion de songe était très importante chez lui. Il a même dit que la vraie vie était un songe. Attendez, je me trompe pas, mais je crois qu'il commence ce livre-là. Je vais le réouvrir pour... La première phrase, il dit «
Je suis venu dans le Pacifique à la recherche d'un rêve, ou plutôt à sa poursuite. »
Et quand vous pensez que la vraie vie est un songe, ça revient à dire que vous êtes parti à la recherche de votre vraie vie.
Et il dit « Je me suis donné quelques rendez-vous au mi-temps du réel et de l'imaginaire. »
Et il n'arrête pas de naviguer comme ça.
Naviguer, c'est bien le mot.
Il se trouve que la semaine dernière, pour des raisons complètement différentes, je relisais un livre de Valérie Zenati, Dans le faisceau des vivants, et elle dit un truc très marrant, qui m'a permis d'éclairer ce que j'essaie de dire sur Pratt, c'est que elle est à la fois écrivaine et traductrice, et elle dit, il y a un truc qui est bizarre, quand j'écris, j'invente des personnages, je les oublie, très vite après avoir fait le livre, par contre quand je les traduis, et traduire, c'est la forme supérieure d'une lecture, c'est la lecture la plus aiguë qu'on peut avoir d'un texte, je ne les oublie plus jamais. Et bien Pratt, c'est ce qu'il fait avec son œuvre. C'est-à-dire qu'il crée des mondes pour se défaire d'une histoire qui est complexe. Il faut pas oublier que le père de Pratt était fasciste, que lui-même a été, il le disait en souriant, un des plus jeunes soldats de l'armée mussolinienne, qu'il a vécu des tragédies en Érythrée quand il était adolescent. Et après toute sa vie a été vagabonde, et c'était aussi un immense lecteur, c'est-à-dire qu'il a agrégé à son univers pour le grandir un monde qui est fait de lectures, de rêveries, de songes, de dissolution du temps. Ce qui est très étonnant chez lui, c'est que son personnage, on va dire jumeau, Corto Maltese, c'est juste un avatar d'Hugo Pratt quand même, il le fait naître avant et il le fait circuler dans toutes les époques, soit par le rêve, soit par la magie, mais Pratt peut dialoguer avec des magiciens du Moyen-Âge sans aucun problème. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a marqué, essentiellement. C'est cette capacité à dissoudre les frontières du temps et de l'espace.
Est-ce que Hugo Pratt n'incarne pas le XXe siècle, c'est-à-dire cette envie de voyage, cette envie aussi de littérature et de la littérature de voyage, est-ce qu'on ne l'a pas un peu oublié avec le XXIe siècle, par exemple, avec toutes les technologies qui nous permettent de savoir ce qui se passe à l'instant même, à l'autre bout du monde?
Ah, c'est une super question. Parce que je pense qu'il y a deux manières d'y répondre. Il faut pas oublier qu'il va dans le Pacifique, hein, quand même, pour conclure son existence. Et je pense qu'il a eu effectivement un siècle qui a été... le siècle qu'il a traversé a été un siècle très violent, très, très téméraire. Et qu'il a été un magnifique voyageur au milieu de tout ça. Il disait que sa seule fidélité était celle qu'il avait pour ses amis, et ça a été sa quille. Ça lui a permis de dialoguer avec toutes les idéologies, même dans ses bandes dessinées. Certains personnages comme Raspoutine, par exemple, sont très ambigus et sont jamais jugés. Et je pense que cette compréhension-là, cette tolérance, aujourd'hui, elle manque. Et pour l'autre raison, c'est que en même temps, il a vu l'accélération du XXe siècle. Il a eu encore le temps de goûter au cargo, de goûter à la lenteur des voyages, et de les ralentir. C'est un extraordinaire érudit. Je crois que dans sa bibliothèque de son ultime maison en Suisse, il avait quelque chose comme 30 000 ouvrages. Et c'est quelque chose qu'on a perdu, je pense, aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire que plus que le voyage, qu'on est quand même capable de faire encore aujourd'hui, on a perdu la lenteur du voyage.
La lenteur du voyage, comme vous le dites, Frédéric Martin, mais aussi l'exploration du monde. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de voyager pour tout savoir du monde.
Ah, il faut espérer que c'est qu'une mauvaise passe, que ça va revenir, parce que le regard ne peut pas être remplacé par l'image. C'est quand je disais que Pratt, comme Sapienza, avait créé des outils pour faire face à l'image et à cette accélération du temps. Je pense qu'il faut aujourd'hui effectivement apprendre à lutter contre l'instantanéité des images. Et la lenteur de ses ancrages, par exemple, la manière dont beaucoup de ses planches, par exemple, étaient muettes, laisser les respirations possibles pour un imaginaire, je pense que ça redevient un peu quand même au goût du jour. Même au niveau alimentaire, vous voyez cette envie de manger lentement, de vagabonder. Il y a les marcheurs qui vont très vite pour aller à un point. Moi, il me faut une heure pour faire 10 mètres parfois. Donc, je pense qu'en une heure, on peut voyager très loin, même en restant à moins d'un kilomètre de chez soi.
Comment ça?
Ah ben regardez, revenons à Pratt. Certains des plus beaux voyages qu'il fait faire à ses personnages, c'était en restant assis dans l'arrière-cour d'un quartier perdu de Venise. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour voyager. Ce qui fait le voyage, c'est la qualité du regard.
Enfin, pour terminer, Frédéric Martin, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette nouvelle édition de J'avais un rendez-vous? Je suppose qu'on a eu, nous deux, la première version, la version avec une nouvelle d'Antonio Tabucchi, préfacée par Michel Pierre, qui est d'ailleurs avec nous au bout du fil à partir de Lyon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition? Est-ce qu'on a c'est le même texte, bien sûr, mais au niveau des dessins, des aquarelles, des photos, des cartes, est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie les deux versions?
Alors, la première chose, ça serait de dire que ce n'est pas le même texte, justement, parce que la traduction a été, été nouvelle. On a fait une nouvelle traduction pour l'époque, et il faut rendre gloire à Anne Tillen qui a fait un magnifique travail. C'est un travail d'écrivain pour moi, ce qu'elle a réussi à faire dans la sensibilité des mots, le rythme, le souffle. Ensuite, par rapport à la première édition, je pense que il y a eu le bénéfice des 20 années de 25 ans qui sont passés. C'est-à-dire que avec le recul, on a été plutôt dans une simplification de cette édition. Il y avait des textes, des appendices, des introductions qui n'embarrassaient pas la première édition, mais qui masquaient peut-être un peu ce côté testament philosophique. On a en fait recentré l'édition sur uniquement le texte de Hugo Pratt, y compris au niveau des illustrations. On s'est concentré sur tout ce qui était ses aquarelles, parce que c'était un très grand peintre aussi, des planches de bande dessinée, qu'on a remis tout ce matériau dessiné pour que le lecteur puisse se concentrer uniquement sur cet imaginaire et le texte de Pratt.
Et ça fait un très très beau livre, un livre édité donc chez vous, au Tripode. J'avais rendez-vous d'Hugo Pratt. Merci beaucoup Frédéric Martin d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, Michel Pierre qui va nous parler d'un autre livre qui sort en ce moment même, un livre édité par Kesterman et qui est consacré aux héroïnes dans l'œuvre d'Hugo Pratt.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Vous êtes historien, essayiste, vous avez connu Hugo Pratt, vous avez beaucoup écrit sur Hugo Pratt. Est-ce que ce livre, ce très beau livre aussi qui vient de sortir chez Casterman, consacré aux héroïnes dans l'œuvre d'Hugo Pratt, c'est un livre d'époque. Je ne veux pas dire que c'est opportuniste, que c'est un livre qui vient après le mouvement MeToo, mais je veux dire que effectivement, c'était une bonne occasion de rappeler que Hugo Pratt était un des premiers grands auteurs de bande dessinée à offrir aux femmes des rôles très importants dans ses histoires, même si son héros, il faut le dire, ça reste Corto Maltese.
Oui, enfin, j'espère que c'est rien moins qu'opportuniste, puisque à l'origine, c'est un premier livre que nous avions fait avec Hugo, hein, de son vivant, sur les femmes de Corto Maltese, donc essentiellement centré sur les personnages féminins qui gravitent autour de son héros. Là, cette nouvelle édition, en quelque sorte, ou très très très, j'espère enrichie et modifiée, c'est sur l'ensemble des personnages féminins créés par Hugo, c'est-à-dire des personnages qui parcourent, par exemple, la série Les Scorpions du désert ou bien Jésus Joe, etc. Quoi. Donc on est bien au-delà. Et il est vrai que ce sont des personnages tout à fait extraordinaires de modernité, même si j'aime pas beaucoup le mot, mais quand même par rapport au XXe siècle dans lequel elles sont insérées, elles font preuve de courage, d'invention, de mélancolie, d'autonomie surtout. Ce sont des personnages féminins totalement indépendants.
Et pourquoi Hugo Pratt voulait-il ce livre consacré à ces femmes qui ont eu un rôle essentiel dans les histoires d'Hugo Pratt, Michel Pierre?
Je crois que ce qui l'amusait, enfin quand je repense aux conversations que nous avions eues à l'époque, c'est que tout en respectant beaucoup, bien sûr, ces personnages et l'atmosphère dans lesquelles elles évoluent, je prolonge un petit peu leur vie par ce qui relève d'un article de journal, d'un carnet intime, d'une description. Donc j'ai joué d'une pour prolonger en quelque sorte son œuvre déjà à l'époque et encore plus maintenant, pour chacun des personnages de faire un petit texte en étant le plus respectueux possible de son univers. Nous avions suffisamment de, je pense, tout au moins j'espère, de conversations et de dialogues pour que j'ai pu en quelque sorte pénétrer un peu et partager son imaginaire et son amour de ces personnages féminins.
Alors pour terminer justement, et pour reprendre le titre de l'ouvrage, Aventureuse, publié donc chez Casterman, Michel Pierre, quelles sont parmi les femmes d'Hugo Pratt celles qui vous inspirent le plus, celles pour qui vous avez un attachement particulier, entre, je sais pas, Bouche Dorée, Pandora, Anne de la Jungle?
On parlait avec Frédéric Martin, il évoquait la Bretagne, il se trouve aussi que je suis breton, donc il y a peut-être le monde celtique. Il y a le personnage de Banshee dans justement l'album Les Celtiques, cette Irlandaise. Il y a quelque chose qui est là, assez tragique, mélancolique et en même temps très déterminé de ce personnage qui me semble résumer assez bien l'ensemble de ces visages qu'a recherché toute sa vie Hugo et qu'il a su si bien restituer.
Merci beaucoup Michel Pierre.
Merci beaucoup.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Autour d'Hugo Pratt, deux beaux livres à commander de préférence à votre libraire habituel. J'avais un rendez-vous, réédité par le Tripode, et la réédition aussi d'Aventureuse de Michel Pierre aux éditions Casterman. À la réalisation, Vincent Abouchard. À la prise de son, Jean-Baptiste Echeparrebord. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar. Passez une bonne journée et à très bientôt.